Troisième partie. J'aurais trop d'avantages si je pouvais passer de l'examen de Molière à celui de ses successeurs, qui, n'ayant ni son génie ni sa probité, n'ont que mieux suivi ses vues intéressées en s'attachant à flatter une jeunesse débauchée et des femmes sans mœurs. Ce sont eux qui, les premiers, ont introduit ces grossières équivoques, non moins proscrites par le goût que par l'honnêteté, qui firent longtemps l'amusement des mauvaises compagnies, l'embarras des personnes modestes, et dont le malheur, tombe lent dans ses progrès, n'a pas encore purifié certaines provinces. D'autres auteurs, plus réservés dans leur saillie, laissant les premiers amuser les femmes perdues, se chargeront d'encourager les filous. Régnard est un des moins libres, mais n'est pas moins loin dangereux. C'est une chose incroyable qu'avec l'agrément de la police, on joue publiquement au milieu de Paris une comédie où, dans l'appartement d'un oncle qu'on vient de voir expirer, son neveu, l'honnête homme de la pièce, s'occupe avec son digne cortège des soins que les lois paient de la corde. Et qu'au lieu des larmes que la seule humanité fait verser en pareil cas aux indifférents mêmes, on étage à l'envi de plaisanteries barbares le triste appareil de la mort. Les droits les plus sacrés, les plus touchants sentiments de la nature sont joués dans cette odieuse scène. Les tours les plus punissables y sont rassemblés comme à plaisir avec un enjouement qui fait passer tout cela pour des gentillesses. Faux actes, suppositions, vols, fourberies, mensonges, inhumanité, tout y est, et tout y est applaudi. La mort s'étant avisée de renaître au grand déplaisir de son cher neveu et ne voulant point ratifier ce qui s'est fait en son nom, on trouve le moyen d'arracher son consentement de force, et tout se termine au gré des auteurs et des spectateurs, qui, s'intéressant malgré eux à ces misérables, sortent de la pièce avec cet édifiant souvenir d'avoir été dans le fond de leur cœur complices des crimes qu'ils ont vu commettre. Osons le dire sans détour. Qui de nous est assez sûr de lui pour supporter la représentation d'une pareille comédie sans être de moitié des tours qui s'y jouent? Qui ne serait pas un peu fâché si le filou venait à être surpris ou manquer son coup? Qui ne devient pas un moment filou soi-même en s'intéressant pour lui? Car s'intéresser pour quelqu'un, qu'est-ce autre chose que de se mettre à sa place? Belle instruction pour la jeunesse que celle où les hommes faits ont bien de la peine à se garantir de la séduction du vice. Est-ce à dire qu'il ne soit jamais permis d'exposer au théâtre des actions blâmables? Non! Mais en vérité, pour savoir mettre un fripon sur la scène, il faut un auteur bien honnête homme. Ces défauts sont tellement inhérents à notre théâtre qu'en voulant les en ôter, on le défigure. Nos auteurs modernes, guidés par de meilleures intentions, font des pièces plus épurées, mais aussi, qu'arrivent-ils? Qu'elles n'ont plus de vrai comique et ne produisent aucun effet. Elles instruisent beaucoup, si l'on veut, mais elles ennuient en avantage. Autant vaudrait aller au sermon. Dans cette décadence du théâtre, on se voit contraint d'y substituer aux véritables beautés éclipsées de petits agréments capables d'en imposer à la multitude. Ne sachant plus nourrir la force du comique et des caractères, on a renforcé l'intérêt de l'amour. On a fait la même chose dans la tragédie pour suppléer aux situations prises dans des intérêts d'État qu'on ne connaît plus et aux sentiments naturels et simples qui ne touchent plus personne. Les auteurs concourent à l'envi pour l'utilité publique à donner une nouvelle énergie et un nouveau coloris à cette passion dangereuse. Et depuis Molière et Corneille, on ne voit plus réussir au théâtre que des romans sous le nom de pièces dramatiques. L'amour est le règne des femmes. Ce sont elles qui nécessairement y donnent la loi. Parce que, selon l'ordre de la nature, la résistance leur appartient, et que les hommes ne peuvent vaincre cette résistance qu'aux dépens de leur liberté. Un effet naturel de ces sortes de pièces est donc d'étendre l'empire du sexe, de rendre des femmes et de jeunes filles les précepteurs du public, et de leur donner, sur les spectateurs, le même pouvoir qu'elles ont sur leurs amants. Pensez-vous, monsieur, que cet ordre soit sans inconvénient, et qu'en augmentant avec tant de soin l'ascendant des femmes, les hommes en seront mieux gouvernés ? Il peut y avoir dans le monde quelques femmes dignes d'être écoutées d'un honnête homme, mais est-ce d'elles en général qu'il doit prendre conseil, et n'y aurait-il aucun moyen d'honorer leur sexe à moins d'avilir le nôtre ? Le plus charmant objet de la nature, le plus capable d'émouvoir un cœur sensible et de le porter au bien, est, je vous l'avoue, une femme aimable et vertueuse. Mais cet objet céleste, où se cache-t-il ? N'est-il pas bien cruel de le contempler avec tant de plaisir au théâtre pour en trouver de si différents dans la société ? Cependant, le tableau séducteur fait son effet. L'enchantement causé par ces prodiges de sagesse tourne au profit des femmes sans honneur. Qu'un jeune homme n'ait vu le monde que sur la science saine, le premier moyen qui s'offre à lui pour aller à la vertu est de chercher une maîtresse qui l'y conduise, espérant bien trouver une constance ou une génie. C'est ainsi que sur la foi d'un modèle imaginaire, sur un air modeste et touchant, sur une douceur contrefaite, Nescius aurae fallacis, le jeune insensé court se perdre en pensant devenir un sage. Ceci me fournit l'occasion de proposer une espèce de problème. Les anciens avaient en général un très grand respect pour les femmes. Mais ils manquèrent à marquer ce respect en s'abstenant de les exposer au jugement du public et croyaient honorer leur modestie en se taisant sur leurs autres vertus. Ils avaient pour maxime que le pays où les mœurs étaient les plus pures était celui où l'on parlait le moins des femmes, et que la femme la plus honnête était celle dont on parlait le moins. C'est sur ce principe qu'un Spartiate, entendant un étranger faire de magnifiques éloges d'une dame de sa connaissance, l'interrompit en colère. « Ne cesseras-tu point, lui dit-il, de médire d'une femme de bien ?» De là venait encore que dans leur comédie, les rôles d'amoureuses et de filles à marier ne représentaient jamais que des esclaves ou des filles publiques. Ils avaient une telle idée de la modestie du sexe qu'ils auraient cru manquer aux égards qu'ils lui devaient de mettre une honnête fille sur la scène seulement en représentation. S'ils en usaient autrement dans les tragédies, c'est que, suivant le système politique de leur théâtre, ils n'étaient pas fâchés qu'on crût que les personnages d'un haut rang n'ont pas besoin de pudeur et sont toujours exception aux règles de la morale. En un mot, l'image du vice à découvert les choquait, moins que celle de la pudeur offensée. Chez nous, au contraire, la femme estimée est celle qui fait le plus de bruit, de qui l'on parle le plus, qu'on voit le plus dans le monde, chez qui l'on dîne le plus souvent, qui donne le plus impérieusement le ton, qui juge, tranche, décide, prononce, assigne au talent, au mérite, aux vertus, leur degré et leur place, et dont les hommes le savant mendient le plus bassement la faveur. Sur la scène, c'est pis encore. Au fond, dans le monde, elles ne savent rien, quoiqu'elles jugent de tout, mais au théâtre, savantes du savoir des hommes, philosophes grâce aux auteurs, elles écrasent notre sexe de ses propres talons. Et les imbéciles spectateurs vont bonnement apprendre des femmes ce qu'ils ont pris soin de leur dicter. Tout cela, dans le vrai, c'est se moquer d'elles. C'est les taxer d'une vanité puérile, et je ne doute pas que les plus sages n'en soient indignés. Parcourez la plupart des pièces modernes. C'est toujours une femme qui sait tout, qui apprend tout. Homme, c'est toujours la dame de cour qui fait le catéchisme aux petits gens de Sainte. Un enfant ne saurait se nourrir de son pain s'il n'est coupé par sa gouvernante. Voilà l'image de ce qui se passe aux nouvelles pièces. La bonne est sur le théâtre et les enfants sont dans le parterre. Encore une fois, je ne nie pas que cette méthode n'ait ses avantages et que de tels précepteurs ne puissent donner du poids et du prix à leurs leçons. Mais revenons à ma question. De l'usage antique et du nôtre, je demande lequel est le plus honorable aux femmes et rend le mieux à leur sexe les vrais respects qui lui sont dus. La même cause qui donne dans nos pièces tragiques et comiques l'ascendant aux femmes sur les hommes, le donne encore aux jeunes gens sur les vieillards. Et c'est un autre renversement, ces rapports naturels, qui n'est pas moins répréhensible. Puisque l'intérêt y est toujours pour les amants, il s'ensuit que les personnages avancés en âge n'y peuvent jamais faire que des rôles en sous-ordre. Or, pour former le nœud de l'intrigue, ils servent d'obstacle aux vœux des jeunes amants, et alors ils sont haïssables. Ou ils sont amoureux eux-mêmes, et alors ils sont ridicules. Turpe senex miles. On en fait dans les tragédies des tyrans, des usurpateurs, dans les comédies des jaloux, des usuriers, des pédants, des pères insupportables que tout le monde conspire à tromper. Voilà sous quel honorable aspect on montre la vieillesse au théâtre. Voilà quel respect on inspire pour elle aux jeunes gens. Remercions l'illustre auteur de Zahir et de Nanine d'avoir soustrait à ce mépris le vénérable Lusignan et le bon vieux Philippe Imbert. Il en est quelques autres encore. Mais cela suffit-il pour arrêter le torrent du préjugé public et pour effacer l'avilissement où la plupart des auteurs se plaisent à montrer l'âge de la sagesse, de l'expérience et de l'autorité? Qui peut douter que l'habitude de voir toujours dans les vieillards des personnages odieux au théâtre n'aide à les faire rebuter dans la société, et qu'en s'accoutumant à confondre ceux qu'on voit dans le monde avec les radoteurs et les gérontes de la comédie, on le pépérise tous également? Observez à Paris, dans une assemblée, l'air suffisant et vain, le ton ferme et tranchant d'une imprudente jeunesse, tandis que les anciens, craintifs et modestes, ou n'osent ouvrir la bouche, ou sont à peine écoutés. Voit-on rien de pareil dans les provinces et dans les lieux où les spectacles ne sont point établis? Et par toute la terre, hors des grandes villes, une tête, des cheveux et les cheveux blancs n'imprime-t-il pas toujours du respect? On me dira qu'à Paris, les vieillards contribuent à se rendre méprisables en renonçant au maintien qui leur convient pour prendre indécemment la parure et les manières de la jeunesse, et que faisant les galants à son exemple, il est très simple qu'on la leur préfère dans son métier. Mais c'est tout au contraire. Pour n'avoir nul autre moyen de se faire supporter, qu'ils sont contraints de recourir à celui-là. Et ils aiment encore mieux être soufferts à la faveur de leur ridicule que de n'être point du tout. Ce n'est pas assurément qu'en faisant les agréables, ils le deviennent en effet, et qu'un galant sexagénaire soit un personnage fort gracieux. Mais son indécence même lui tourne à profit. C'est un triomphe de plus pour une femme qui, traînant à son char un Nestor, croit montrer que les glaces de l'âge ne garantissent point des feux qu'elle inspire. Voilà pourquoi les femmes encouragent de leur mieux ces doyens de Cythère et ont la malice de traiter d'hommes charmants, de vieux sous qu'elles trouveraient moins aimables s'ils étaient moins extravagants. Mais revenons à mon sujet. Ces effets ne sont pas les seuls que produit l'intérêt de la scène uniquement fondée sur l'amour. On lui en attribue beaucoup d'autres, plus graves et plus importants, dont je n'examine point ici la réalité, mais qui ont été souvent et sottement allégués par les écrivains ecclésiastiques. Les dangers que peut produire le tableau d'une passion contagieuse sont, leur a-t-on répondu, prévenus par la manière de le présenter. L'amour que s'expose au théâtre y est rendu légitime. Son but est honnête, souvent il est puni. Fort bien, mais n'est-il pas plaisant qu'on prétende aussi régler après coup les mouvements du cœur sur les préceptes de la raison, et qu'il faille attendre événement pour savoir quelle impression on doit recevoir des situations qui les amènent? Le mal qu'on reproche au théâtre n'est pas précisément d'inspirer des passions criminelles, mais de disposer l'âme à des sentiments trop tendres qu'on satisfait ensuite aux dépens de la vertu. Les douces émotions qu'on y ressent n'ont pas par elles-mêmes un objet déterminé, mais elles en sont naître le besoin. Elle ne donne pas précisément de l'amour, mais elle prépare à en sentir. Elles ne choisissent pas la personne qu'on doit aimer, mais elles nous forcent à faire ce choix. Ainsi, elles ne sont innocentes ou criminelles que par l'usage que nous en faisons selon notre caractère. Et ce caractère est indépendant de l'exemple. Quand il serait vrai qu'on ne pointe au théâtre que des passions légitimes, s'ensuit-il de là que les impressions en sont plus faibles, que les effets en sont moins dangereux? Comme si les vives images d'une tendresse innocente étaient moins douces, moins séduisantes, moins capables d'échauffer un cœur sensible que celles d'un amour criminel à qui l'horreur du vice sert au moins de contrepoison. Mais si l'idée de l'innocence embellit quelques instants le sentiment qu'elle accompagne, bientôt les circonstances s'effacent de la mémoire, tandis que l'impression d'une passion si douce reste gravée au fond du cœur. Quand le patricien Manilius fut chassé du Sénat de Rome pour avoir donné un baiser à sa femme en présence de sa fille, à ne considérer cette action qu'en elle-même, qu'avait-elle de répréhensible ? Rien, sans doute. Elle annonçait même un sentiment louable. Mais les chastes feux de la mère en pouvaient inspirer d'impurs à la fille. C'était donc, d'une action fort honnête, faire un exemple de corruption. Voilà l'effet des amours permis au théâtre. On prétend nous guérir de l'amour par la peinture de ses faiblesses. Je ne sais là-dessus comment les auteurs s'y prennent, mais je vois que les spectateurs sont toujours du parti de l'amant faible, et que souvent ils sont face qu'ils ne soient pas davantage. Je demande si c'est un grand moyen d'éviter de lui ressembler. Rappelez-vous, monsieur, une pièce à laquelle je crois un souvenir d'avoir assisté avec vous il y a quelques années, et qui nous fit un plaisir auquel nous nous attendions peu, soit qu'en effet l'auteur y eut mis plus de beauté théâtrale que nous avions pensé, soit que l'actrice prêta son charme ordinaire au rôle qu'elle faisait valoir. Je veux parler de la Bérénice de Racine. Dans quelle disposition d'esprit le spectateur voit-il commencer cette pièce ? Dans un sentiment de mépris pour la faiblesse d'un empereur et d'un romain qui balance comme le dernier des hommes entre sa maîtresse et son devoir, qui, flottant incessamment dans une déshonorante incertitude, avilit par des planes efféminées ce caractère presque divin que lui donne l'histoire, qui s'est cherché dans un vil soupirant de ruelle le bienfaiteur du monde et les délices du genre humain. Et qu'en pense le même spectateur après la représentation ? Il finit par plaindre cet homme sensible qu'il méprisait, par s'intéresser à cette même passion dont il lui faisait un crime, par murmurer en secret du sacrifice qu'il est forcé d'en faire aux lois de la patrie. Voilà ce que chacun de nous éprouvait à la représentation. Le rôle de Titus, très bien rendu, eût fait de l'effet, s'il eût été plus digne de lui. Mais tous sentirent que l'intérêt principal était pour Bérénice, et que c'était le sort de son amour qui déterminait l'espèce de la catastrophe. Non que ces plaintes continuelles donnassent une grande émotion durant le cours de la pièce, mais au cinquième acte, où, cessant de se plaindre, l'air morne, l'œil sec et la voix éteinte, elle faisait parler une douleur froide approchant du désespoir. L'art de l'actrice ajoutait au pathétique du rôle, et les spectateurs, vivement touchés, commençaient à pleurer quand Bérénice ne pleurait plus. Que signifiait cela ? Sinon qu'on tremblait qu'elle ne fût renvoyée, qu'on sentait d'avance la douleur dont son cœur serait pénétré, et que chacun aurait voulu que Titus se laissât vaincre, même au risque de l'en moins estimer. Ne voilà-t-il pas une tragédie qui a bien rempli son objet et qui a bien appris au spectateur à surmonter les faiblesses de l'amour ? L'événement dément ses vœux secrets, mais qu'importe. Le dénouement n'efface point l'effet de la pièce. La reine part sans le congé du parterre. L'empereur la renvoie in vitus in vitam, malgré lui, malgré elle. On peut ajouter in vito spectatore, malgré le spectateur. Titus a beau rester romain, il est seul de son parti. Tous les spectateurs ont épousé Bérénice. Quand même on pourrait me disputer cet effet. Quand même on soutiendrait que l'exemple de force et de vertu qu'on voit dans Titus, vainqueur de lui-même, font l'intérêt de la pièce et fait qu'en plaignant Bérénice, on est bien aise de la plaindre. On ne ferait que rentrer en cela dans mes principes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, les sacrifices faits au devoir et à la vertu ont toujours un charme secret, même pour les cœurs corrompus. Et la preuve que ce sentiment n'est point l'ouvrage de la pièce, c'est qu'ils l'ont avant qu'elle commence. Mais cela n'empêche pas que certaines passions satisfaites ne leur semblent préférables à la vertu même, et qui, s'ils sont contents de voir Titus vertueux et magnanime, ils ne le fussent encore plus de le voir heureux et faible, ou du moins qu'ils ne consentissent volontiers à l'être à sa place. Pour rendre cette vérité sensible, imaginons un dénouement tout contraire à celui de l'auteur. Qu'après avoir mieux consulté son cœur, Titus, ne voulant ni enfreindre les lois de Rome, ni vendre le bonheur à l'ambition, vienne avec des maximes opposées abdiquer l'empire au pied de Bérénice. Que, pénétrée d'un si grand sacrifice, elle sente que son devoir serait de refuser la main de son amant, et que pourtant elle l'accepte. Que tous deux, enivrés des charmes de l'amour, de la paix, de l'innocence, et renonçant aux vaines grandeurs, prennent avec cette douce joie qu'inspirent les vrais mouvements de la nature, le parti d'aller vivre heureux et ignoré dans un coin de la terre. Qu'une scène si touchante soit animée des sentiments tendres et pathétiques que fournit la matière, et que Racine eût si bien fait valoir. Que Titus, en quittant les Romains, leur adresse un discours, tel que la circonstance et le sujet le comportent. N'est-il pas clair, par exemple, qu'à moins qu'un auteur ne soit de la dernière maladresse, un tel discours doit faire fondre en larmes toute l'assemblée? La pièce ainsi sera, si l'on veut, moins bonne, moins instructive, moins conforme à l'histoire. Mais en fera-t-elle moins de plaisir et les spectateurs en sortiront-ils moins satisfaits? Les quatre premiers actes subsisteraient à peu près tels qu'ils sont, et cependant on en tirerait une leçon directement contraire. Tant il est vrai que les tableaux de l'amour sont toujours plus d'impression que les maximes de la sagesse, et que l'effet d'une tragédie est tout à fait indépendant de celui du dénouement. Veut-on savoir s'il est sûr qu'en montrant les suites funestes des passions immodérées, la tragédie apprenne à s'en garantir, que l'on consulte l'expérience? Ces suites funestes se représentaient très fortement dans Zaïre. Il en coûte la vie aux deux amants, et il en coûte bien plus que la vie à Orosmane, puisqu'il ne se donne la mort que pour se délivrer du plus cruel sentiment qui puisse entrer dans un cœur humain, le remords d'avoir poignardé sa maîtresse. Voilà donc assurément des leçons très énergiques. Et je serais curieux de trouver quelqu'un, homme ou femme, qui s'osa vanter d'être sorti d'une représentation de Zaïre bien prémuni contre l'amour. Pour moi, je crois entendre chaque spectateur dire en son cœur à la fin de la tragédie: oh, qu'on me donne une Zaïre, je ferais bien en sorte de ne la pas tuer. Si les femmes n'ont pu se lasser de courir en foule à cette pièce enchanteresse et d'y faire courir les hommes, je ne dirais point que c'est pour s'encourager par l'exemple de l'héroïne animée par un sacrifice qui lui réussit si mal. Mais c'est parce que de toutes les tragédies qui sont au théâtre, nulle autre ne montre avec plus de charme le pouvoir de l'amour et l'empire de la beauté, et qu'on apprend encore par surcroît de profit à ne pas juger sa maîtresse sur les apparences. Qu'Orosmane immole Zaïre à sa jalousie, une femme sensible y voit sans effroi le transport de la passion, car c'est un moindre malheur de périr par la main de son amant que d'en être médiocrement aimé. qu'on nous paye l'amour comme on voudra. Il séduit ou ce n'est pas lui. S'il est mal peint, la pièce est mauvaise. S'il est bien peint, il offusque tout ce qui l'accompagne. Ses combats, ses maux, ses souffrances le rendent plus touchant encore que s'il n'avait nulle résistance à vaincre. Loin que ses tristes effets rebutent, il n'en devient que plus intéressant par ses malheurs mêmes. On se dit malgré soi qu'un sentiment si délicieux console de tout. Une si douce image amollit insensiblement le cœur. On prend de la passion ce qui mène au plaisir, on en laisse ce qui tourmente. Personne ne se croit obligé d'être un héros, et c'est ainsi qu'admirant l'amour honnête, on se livre à l'amour criminel. Ce qui achève de rendre ces images dangereuses, c'est précisément ce qu'on fait pour les rendre agréables. C'est qu'on ne le voit jamais régner sur la scène quand on est âmes honnêtes, c'est que les deux amants sont toujours des modèles de perfection. Et comment ne s'intéresserait-on pas pour une passion si séduisante entre deux cœurs dont le caractère est déjà si intéressant par lui-même? Je doute que dans toutes nos pièces dramatiques, on en trouve une seule où l'amour mutuel n'est pas la faveur du spectateur. Si quelque infortune n'ébrûle d'un feu non partagé, on en fait le rebut du parterre. On croit faire merveille de rendre un amant estimable ou haïssable selon qu'il est bien ou mal accueilli dans ses amours, de faire toujours approuver au public les sentiments de sa maîtresse et de donner à la tendresse tout l'intérêt de la vertu. Au lieu qu'il faudrait apprendre aux jeunes gens à se défier des illusions de l'amour, à fuir l'erreur d'un penchant aveugle qui croit toujours se fonder sur l'estime, et à craindre quelquefois de livrer un cœur vertueux à un objet indigne de ses soins. Je ne fâche guère que le misanthrope ou le héros de la pièce ait fait un mauvais choix. Rendre le misanthrope amoureux n'était rien, le coup de génie est de l'avoir fait l'amoureux d'une coquette. Tout le reste du théâtre est un trésor de femmes parfaites. On dirait qu'elles y sont toutes réfugiées. Est-ce là l'image fidèle de la société? Est-ce ainsi qu'on nous rend suspecte une passion qui perd tant de gens bien nés? Il s'en faut peu qu'on nous fasse croire qu'un honnête homme est obligé d'être amoureux, et qu'une amante aimée ne saurait n'être pas vertueuse. Ah ! Nous voilà souvent bien instruits. Encore une fois, je n'entre point de juger si c'est bien ou mal fait de fonder sur l'amour le principal intérêt du théâtre. Mais je dis que si ces peintures sont quelquefois dangereuses, elles le seront toujours, quoi qu'on fasse pour les déguiser. Je dis que c'est en parler de mauvaise foi ou sans le connaître, de vouloir rectifier les impressions par d'autres impressions étrangères qui ne les accompagnent point jusqu'au cœur ou que le cœur en a bientôt séparé. Impressions qui, même en déguisant les dangers, donnent à ce sentiment trompeur un nouvel attrait par lequel il perd ceux qui s'y livrent. Soit qu'on déduise de la nature des spectacles en général les meilleures formes dont ils sont susceptibles, soit qu'on examine tout ce que les lumières d'un siècle et d'un peuple éclairé ont fait pour la perfection des nôtres, je crois qu'on peut conclure de ces considérations diverses que l'effet moral du spectacle et des théâtres ne saurait jamais être bon ni salutaire en lui-même. Puisqu'à ne compter que leurs avantages, on n'y trouve aucune force d'utilité réelle, sans inconvénient qui la surpasse. Or, par une suite de son inutilité même, le théâtre, qui ne peut rien pour corriger les mœurs, peut beaucoup pour les altérer. En favorisant tous nos penchants, il donne un nouvel ascendant à ceux qui nous dominent. Les continuelles émotions qu'on y ressent nous énervent, nous affaiblissent, nous rendent plus incapables de résister à nos passions. Et le stérile intérêt qu'on prend à la vertu ne sert qu'à contenter notre amour-propre sans nous contraindre à la pratiquer. Ceux de mes compatriotes qui ne désapprouvent pas les spectacles en ont eux-mêmes, ont donc tort. Outre ces effets du théâtre relatifs aux choses représentées, Il y en a d'autres, non moins nécessaires, qui se supportent directement à la scène et aux personnages représentants, et c'est à cela que les Genevois déjà cités attribuent le luxe de parure et de dissipation dont ils craignent avec raison l'introduction parmi nous. Ce n'est pas seulement la fréquentation des comédiens, mais celle du théâtre qui peut amener ce goût pour son appareil et la parure des acteurs. N'eut-il d'autre effet que d'interrompre à certaines heures le cours des affaires civiles et domestiques et d'offrir une ressource assurée à l'oisiveté, il n'est pas possible que la commodité d'aller tous les jours régulièrement, au lieu de s'oublier soi-même et de s'occuper d'objets étrangers, ne donne aux citoyens d'autres habitudes et ne lui forme de nouvelles mœurs. Mais ces changements seront-ils avantageux ou nuisibles? C'est une question qui dépend moins de l'examen du spectacle que de celui des spectateurs. Il est sûr que ces changements les amèneront tous à peu près au même point. C'est donc par l'état où chacun était d'abord qu'il faut estimer les différences. Quand les amusements sont indifférents par leur nature, et je veux bien, pour un moment, considérer les spectacles comme tels. C'est la nature des occupations qu'ils rompent, qui les fait juger bons ou mauvais, surtout lorsqu'ils sont assez vifs pour devenir des occupations eux-mêmes et substituer leur goût à celui du travail. La raison veut qu'on favorise les amusements des gens dont les occupations sont nuisibles et qu'on détourne des mêmes amusements ceux dont les occupations sont utiles. Une autre considération générale est qu'il n'est pas bon de laisser à des hommes oisifs et corrompus le choix de leurs amusements, de peur qu'ils ne les imaginent conformes à leurs inclinations vicieuses et ne deviennent aussi malfaisants dans leurs plaisirs que dans leurs affaires. Mais laisser un peuple simple et laborieux se délasser de tes travaux quand il lui plaît, jamais il n'est à craindre qu'il abuse de cette joie, et l'on ne doit point se tourmenter à lui chercher des divertissements agréables. Car, comme il faut peu d'apprêt pour un mec que l'abstinence et la faim assaisonnent, il n'en faut pas non plus beaucoup au plaisir de gens épuisés de fatigue, pour qui le repos seul en est un trait doux. Dans une grande ville pleine de gens intrigants, désœuvrés, sans religion, sans principe, dont l'imagination dépravée par l'oisiveté la fainéantise par l'amour du plaisir et par de grands besoins, n'engendre que des monstres et n'inspire que des forfaits, dans une grande ville où les mœurs et l'honneur ne sont rien, parce que chacun, dérobant aisément sa conduite aux yeux du public, ne se montre que par son crédit et n'est estimé que par ses richesses, la police ne saurait trop multiplier les plaisirs permis, ni trop s'appliquer à les rendre agréables pour obéir aux particuliers, pour ôter à ces particuliers la tentation d'en chercher le plus dangereux. Comme les empêcher de s'occuper, c'est les empêcher de mal faire. 2 heures par dérobée à l'activité du vice sauve la deuxième partie de crime qui se commettrait. Et tout ce que les spectacles vus ou à voir causent d'entretien dans les cafés et autres refuges des fainéants et fripons du pays est encore autant de gagné pour les pères de famille, soit sur l'honneur de leur fille ou de leur femme, soit sur leur bourse ou sur celle de leur fils. Mais dans les petites villes, dans les lieux moins peuplés où les particuliers, toujours sous les yeux du public, sont censeurs nés les uns des autres, et où la police a surtout une inspection facile, il faut suivre des maximes toutes contraires. S'il y a de l'industrie, des arts, des manufactures, on doit se garder d'offrir des distractions relâchantes à l'âpre intérêt qui fait ses plaisirs, de ses soins et enrichit le prince de l'avarice des sujets. Si le pays, sans commerce, nourrit les habitants dans l'inaction, loin de fomenter en eux l'oisiveté à laquelle une vie simple et facile ne les porte déjà que trop, il faut la leur rendre insupportable en les contraignant à force d'ennui d'employer utilement un temps dont ils ne sauraient abuser. Je vois qu'à Paris, où l'on juge de tout sur les apparences, parce qu'on a le loisir de ne rien examiner, On croit à l'air de désœuvrement et de langueur dont frappent au premier coup d'œil la plupart des villes de province, que les habitants, plongés dans une stupide inaction, n'y font que végéter ou tracasser et se brouiller ensemble. C'est une erreur dont on reviendrait aisément si l'on songeait que la plupart des gens de lettres qui brillent à Paris, la plupart des découvertes utiles et des inventions nouvelles, ils viennent de ces provinces si méprisées. Reliez quelque temps dans une petite ville où vous aurez cru d'abord ne trouver que des automates. Non seulement vous y verrez bientôt des gens beaucoup plus sensés que vos singes des grandes villes, mais vous manquerez rarement d'y découvrir dans l'obscurité quelque homme ingénieux qui vous surprendra par ses talents, par ses ouvrages, et que vous surprendrez encore plus en les admirant, et qui, vous montrant des prodiges de travail, de patience et d'industrie, croira ne vous montrer que des choses communes à Paris. Telle est la simplicité du vrai génie. Il n'est ni intrigant, ni actif, il ignore le chemin des honneurs et de la fortune, et il ne songe point à le chercher. Il ne se compare à personne. Toutes les ressources sont en lui seul. Insensible aux outrages et peu sensible aux louanges, s'il se connaît, il ne s'assigne point sa place et jouit de lui-même sans s'apprécier. Dans une petite ville, on trouve, proportion gardée, moins d'activité sans doute que dans une capitale, parce que les passions sont moins vives et les besoins moins pressants. Mais plus d'esprits originaux, plus d'industries inventives, plus de choses vraiment neuves, parce qu'on y est moins imitateur, et qu'ayant peu de modèles, chacun tire plus de lui-même et met plus du lien dans tout ce qu'il fait. Parce que l'esprit humain, moins étendu, moins noyé parmi les opinions vulgaires, s'élabore et fermente mieux dans la tranquillité solitude. Parce qu'en voyant moins, on imagine davantage, enfin, parce que moins presse le temps, on a plus le loisir d'étendre et digérer ses idées. Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse, aux environs de Neuchâtel, un spectacle assez agréable et peut-être unique sur la terre. Une montagne entière couverte d'habitations dont chacune fait le centre, des terres qui en dépendent. En sorte que ces maisons, à distance aussi égale que les fortunes des propriétaires, offrent à la fois aux nombreux habitants de cette montagne le recueillement de la retraite et les douceurs de la société. Ces heureux paysans, tous à leur aise, francs de taille, d'impôts, de subdélégués, de corvées, cultivent avec tout le soin possible des biens dont le produit est pour eux et emploient le loisir que cette culture leur laisse à faire 1000 ouvrages de leurs mains et à mettre à profit le génie inventif que leur donna la nature. L'hiver surtout, temps où la hauteur des neiges leur ôte une communication facile, chacun renferme bien chaudement avec sa nombreuse famille dans sa jolie et propre maison de bois, qu'il est impossible qu'une maison de bois soit chaude. Grossier mensonge, erreur de physique, ah, pauvre auteur! Quant à moi, je crois la démonstration sans réplique. Tout ce que je sais, c'est que les Suisses passent chaudement leur hiver au milieu des neiges, dans des maisons de bois qu'il a bâties lui-même, s'occupe de 1000 travaux amusants, qui chassent l'ennui de son asile et ajoutent à son bien-être. Jamais menuisier, serrurier, vitrier et tourneur de profession n'entra dans le pays. Tous le sont pour eux-mêmes, aucun ne l'est pour autrui. Dans la multitude de meubles commodes et même élégants qui composent leur ménage et par leur logement, on n'en voit pas un qui n'ait été fait de la main du maître. Il leur reste encore du loisir pour inventer et faire 1000 instruments divers, d'acier, de bois, de carton, qu'ils vendent aux étrangers, dont plusieurs même parviennent jusqu'à Paris, entre autres ces petites horloges de bois qu'on y voit depuis quelques années. Ils en sont aussi de fer, ils font même des montres, et ce qui paraît incroyable, chacun réunit à lui seul toutes les professions diverses dans lesquelles se subdivise l'horlogerie et fait tous ses outils lui-même. Ce n'est pas tout, Ils ont des livres utiles et sont passablement instruits. Ils raisonnent sensément de toutes choses, et de plusieurs, avec esprit. Ils font des siphons, des aimants, des lunettes, des pompes, des baromètres, des chambres noires. Leurs tapisseries sont des multitudes d'instruments de toute espèce. Vous prendriez le poil d'un paysan pour un atelier de mécanique et pour un cabinet de physique expérimental. Tous savent un peu dessiner, peindre, chiffrer. La plupart jouent de la flûte, plusieurs ont un peu de musique et chantent juste. Ces arts ne leur sont point enseignés par des maîtres, mais leur passent, pour ainsi dire, par tradition. De ceux que j'ai vu savoir la musique, l'un me disait l'avoir apprise de son père, un autre de son tante, une autre de son cousin, quelques-uns croyaient l'avoir toujours su. Un de leurs plus fréquents amusements est de chanter avec leurs femmes et leurs enfants les psaumes à quatre parties. Et l'on est tout étonné d'entendre sortir de ces cabanes champêtres l'harmonie sorte et malade de Goudimel, mal depuis si longtemps oublié de nos savants artistes. Je ne pouvais non plus me lasser de parcourir ces charmantes demeures que les habitants de m'y témoigner la plus franche hospitalité. Malheureusement, j'étais jeune, ma curiosité n'était que celle d'un enfant, et je songeais plus à m'amuser qu'à m'instruire. Mais depuis 30 ans, le peu d'observations que je fis se sont effacées de ma mémoire. Je me souviens seulement que j'admirais sans cesse, en ces hommes singuliers, un mélange étonnant de finesse et de simplicité qu'on croirait presque incompatible et que je n'ai plus observé nulle part. Dirais-je, je n'ai rien retenu de leurs mœurs, de leur société, de leur caractère. Aujourd'hui, que j'y porterai d'autres yeux, faut-il ne plus revoir cet heureux pays? Hélas, il est sur la route du mien. Après cette légère idée, supposons qu'au sommet de la montagne dont je viens de parler, au centre des habitations, on établisse un spectacle fixe et peu coûteux, sous prétexte, par exemple, d'offrir une honnête récréation à des gens continuellement occupés et en état de supporter cette petite dépense. Supposons encore qu'ils prennent du goût pour ce même spectacle et cherchons ce qui doit résulter de l'établissement. Je vois d'abord que leurs travaux, scellant d'être leur abusement, aussitôt qu'ils en auront un autre, celui-ci les dégoûtera des premiers. Le zèle ne fournira plus tant de loisirs, ni les mêmes inventions. D'ailleurs, il y aura chaque jour un temps réel de perdu pour ceux qui assisteront au spectacle. Et si on ne se remet pas à l'ouvrage, l'esprit rempli de ce qu'on vient de voir, on en parle ou l'on y longe. Par conséquent, relâchement de travail, premier préjudice. Quelque peu qu'on paye à la porte, on paye enfin. C'est toujours une dépense qu'on ne faisait pas. Il en coûte pour soi, pour sa femme, pour ses enfants, quand on les y mène, et il y faut mener quelquefois. De plus, un ouvrier ne va point dans une assemblée se montrer en habit de travail. Il faut prendre plus souvent les habits des dimanches, changer de linge plus souvent, se poudrer, se raser. Tout cela coûte du temps et de l'argent. Augmentation de dépenses. Deuxième préjudice. Un travail moins assidu et une dépense plus forte exigent un dédommagement. On le trouvera sur le prix des ouvrages qu'on sera forcé de renchérir. Plusieurs marchands, rebutés de cette augmentation, quitteront les Montagnons. Et se pourvoiront chez les autres Suisses, leurs voisins, qui, sans être moins industrieux, n'auront point de spectacle et n'augmenteront point leur prix. Diminution de débit, troisième préjudice. Dans les mauvais temps, les chemins ne sont pas praticables. Et comme il faudra toujours dans ces temps-là que la troupe vive, elle n'interrompra pas ses représentations. On ne pourra donc éviter de rendre le spectacle abordable en tout temps. L'hiver, il faudra faire des chemins dans la neige, peut-être les pavés. Et Dieu veuille qu'on n'y mette pas des lanternes. Voilà des dépenses publiques, par conséquent des contributions de la part des particuliers, établissement d'impôts, quatrième préjudice. Les femmes des Montagnons, allant d'abord pour voir et ensuite pour être vues, voudront être parées, elles voudront l'être avec distinction. La femme de monsieur le justicier ne voudra pas se montrer au spectacle mise comme celle du maître d'école. La femme du maître d'école s'efforcera de se mettre comme celle du justicier. De là naîtra bientôt une émulation de parure qui ruinera les maris, les gagnera peut-être et qui trouvera sans cesse mille nouveaux moyens d'éluder les lois somptuaires. Introduction du luxe, cinquième préjudice. Tout le reste est facile à concevoir. Sans mettre en ligne de compte les autres inconvénients dont j'ai parlé ou dont je parlerai dans la suite. Sans avoir égard à l'espèce de spectacle et ses effets moraux, je m'en tiens uniquement à ce qui regarde le travail et le gain, et je crois montrer, par une conséquence évidente, comment un peuple aisé, mais qui doit son bien-être à son industrie, changeant la réalité contre l'apparence, se ruine à l'instant qu'il veut briller. Le reste, il ne faut point se récrier contre la chimère de ma supposition. Je lis la donne que pour elle, elle veut, que pour rendre sensible de plus ou moins ses suites inévitables. Ôtez quelques circonstances, vous retrouverez d'ailleurs d'autres Montagnons. Et mutatis mutandis, l'exemple a son application. Ainsi, quand il serait vrai que les spectacles ne sont mauvais en eux-mêmes, on aurait toujours à chercher s'ils ne le deviendraient point à l'égard du peuple auquel on les destine. En certains lieux, ils seront utiles pour attirer les étrangers, pour augmenter la circulation des espèces, pour exciter les artistes, pour varier les modes, pour occuper les gens trop riches ou aspirant à l'être, pour les rendre moins malfaisants, pour distraire le peuple de ses misères, pour lui faire oublier ses chefs en voyant ses baladins, pour maintenir de perfectionner le goût quand l'honnêteté est perdue, pour couvrir d'un vernis de procédé la laideur du vice, pour empêcher en un mot que les mauvaises mœurs ne dégénèrent en brigandage. En d'autres lieux, ils ne serviront qu'à détruire l'amour du travail, à décourager l'industrie, à ruiner les particuliers, à leur inspirer le goût de l'oisiveté, à leur faire chercher les moyens de subsister sans rien faire, à rendre un peuple inactif et lâche, à l'empêcher de voir les objets publics et particuliers dont il doit s'occuper, à tourner la sagesse en ridicule, à substituer un jargon de théâtre, à la pratique des vertus, à mettre toute la morale en métaphysique, à travestir les citoyens en beaux esprits, les mères de famille en petites maîtresses et les filles en amoureuses de comédie. L'effet général sera le même sur tous les hommes. Mais les hommes ainsi changés conviendront plus ou moins à leur pays. En revanche, égaux, les mauvais gagneront, les bons perdront encore davantage. Tous contracteront un caractère de mollesse, un esprit d'inaction qui ôtera aux uns de grandes vertus et préservera les autres de méditer de grands crimes. De ces nouvelles réflexions, il résulte une conséquence directement contraire à celle que je tirais des premières. Savoir que, quand le peuple est corrompu, les spectacles lui sont bons et mauvais quand il est bon lui-même. Il semblerait donc que ces deux effets contraires devraient s'entre-détruire et les spectacles rester indifférents à tous. Mais il y a cette différence, que l'effet qui renforce le bien et le mal, étant tiré de l'esprit des pièces, est sujet comme elle à mille modifications qui le réduisent presque à rien. Au lieu que celui qui change le bien en mal et le mal en bien, résultant de l'existence même du spectacle, est un effet constant, réel, qui revient tous les jours et doit l'emporter à la fin. Il suit de là que, pour juger s'il est à propos ou non, d'établir un théâtre en quelque ville, il faut premièrement savoir si les mœurs y sont bonnes ou mauvaises, question sur laquelle il ne m'appartient peut-être pas de prononcer par rapport à nous. Quoi qu'il en soit, tout ce que je puis accorder là-dessus, c'est qu'il est vrai que la comédie ne sera point de mal si plus rien ne nous en peut faire. Et pour prévenir les inconvénients qui peuvent naître de l'exemple des comédiens, vous voudriez qu'on les forçât d'être honnêtes gens. Par ce moyen, dites-vous, on aurait à la fois des spectacles et des mœurs, et l'on réunirait les avantages des uns et des autres. Des spectacles et des mœurs. Oh, voilà qui formerait vraiment un spectacle à voir, d'autant plus que ce serait la première fois. Mais quels sont les moyens que vous nous indiquez pour contenir les comédiens? Des lois sévères et bien exécutées. Ah, c'est au moins avoué qu'ils ont besoin d'être contenus, et que les moyens n'en sont pas faciles. Des lois sévères. La première est de n'en point souffrir. Si nous enfreignons celle-là, que deviendra la sévérité des autres? Des lois bien exécutées. Il s'agit de savoir si cela se peut, car la force des lois, sa mesure, celle des vices qu'elle réprime a aussi la sienne. Ce n'est qu'après avoir comparé ces deux quantités et trouvé que la première surpasse l'autre, qu'on peut s'assurer de l'exécution des lois. La connaissance de ces rapports fait la véritable science du législateur, car s'il ne s'agissait que de publier édit sur édit, règlement sur règlement, pour remédier aux abus, à mesure qu'ils naissent, on dirait sans doute de fort belles choses, mais qui pour la plupart resteraient sans effet et serviraient d'indication de ce qu'il faudrait faire, plutôt que de moyens pour l'exécuter. Dans le fond, l'institution des lois n'est pas une chose si merveilleuse qu'avec du sens et de l'équité, et tout homme se put très bien trouver de lui-même celle qui, bien observée, serait la plus utile à la société. Où est le plus petit écolier de droit qui ne dressera pas un code d'une morale aussi pure que celle des lois de Platon? Mais ce n'est pas de cela seul qu'il s'agit. C'est d'approprier tellement ce code au peuple pour lequel il est fait et aux choses sur lesquelles on y statue, que son exécution s'ensuive du seul concours de ses convenances. C'est d'imposer au peuple, à l'exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-mêmes que les meilleures qu'il puisse comporter dans la situation donnée. Autrement, il vaut encore mieux laisser subsister les désordres que de les prévenir ou d'y pourvoir par des lois qui ne seront point observées, car sans remédier au mal, c'est encore avilir les lois. Une autre observation non moins importante est que les choses de mœurs et de justice universelle ne se règlent pas, comme celles de justice particulière et de droit rigoureux, par des édits et par des lois, ou si quelquefois les lois influent sur les mœurs, c'est quand elles en tirent leur force. Alors elles leur rendent cette même force par une sorte de réaction bien connue des vrais politiques. La première fonction des efforts de Sparte en entrant en charge était une proclamation publique par laquelle ils enjoignaient aux citoyens non pas d'observer les lois, mais de les aimer afin que l'observation ne leur en fût point dure. Cette proclamation, qui n'était pas un vain formulaire, montre parfaitement l'esprit de l'institution de Sparte par laquelle les lois et les mœurs, intimement unies dans les cœurs des citoyens, n'y faisait pour ainsi dire qu'un même corps. Mais ne nous flattons pas de voir Sparte renaître au sein du commerce et de l'amour du gain. Si nous avions les mêmes maximes, on pourrait établir à Genève un spectacle sans aucun risque, car jamais citoyen ni bourgeois n'y mettrait le pied. Et par où le gouvernement peut-il donc avoir prise sur les mœurs? Je réponds que c'est par l'opinion publique. Si nos habitudes naissent de nos propres sentiments dans la retraite, elles naissent de l'opinion d'autrui dans la société. Quand on ne vit pas en soi, mais dans les autres, ce sont leurs jugements qui règlent tout. Rien ne paraît bon ni désirable au particulier que ce que le public a jugé tel, et le feu bonheur que la plupart des hommes connaissent est d'être estimés heureux. Quant au choix des instruments propres à diriger l'opinion publique, c'est une autre question qu'il serait superflu de résoudre pour vous et que ce n'est pas ici le lieu de résoudre pour la multitude. Je me contenterai de montrer, par exemple, sensible, que ces instruments ne sont ni des lois, ni des peines, ni nulle espèce de moyen coactif. Cet exemple est sous vos yeux, je le tire de votre patrie. C'est celui du tribunal des maréchaux de France, établi juge suprême du point d'honneur. De quoi s'agissait-il dans cette institution ? De changer l'opinion publique sur les duels, sur la réparation des offenses et sur les occasions où un brave homme est obligé, sous peine d'infamie, de tirer raison d'un affront l'épée à la main. Il s'ensuit de là, premièrement, que la force n'ayant aucun pouvoir sur les esprits, il fallait écarter avec le plus grand soin vestiges de violence du tribunal établi pour opérer ce changement. Ce mot même de tribunal était mal imaginé. J'aimerais mieux celui de cour d'honneur. Ses seules armes devaient être l'honneur et l'infamie. Jamais de récompense utile, jamais de punition corporelle, point de prison, point d'arrêt, point de garde aux armées. Simplement un appariteur qui aurait fait ses citations en touchant l'accusé d'une baguette blanche, sans qu'il s'en suivît aucune autre contrainte pour le faire comparaître. Il est vrai que ne pas comparaître aux termes fixés par devant les juges de l'honneur, c'était s'en confesser dépourvu, c'était se condamner soi-même. De là résultait naturellement note d'infamie, dégradation de noblesse, incapacité de servir le roi dans ses tribunaux, dans ses armées et autres punitions de ce genre, qui tiennent immédiatement à l'opinion, est en sorte un effet nécessaire. Il s'ensuit en second lieu que pour déraciner le préjugé public, il fallait des juges d'une grande autorité sur la matière en question. Et quant à ce point, l'instituteur entra parfaitement dans l'esprit de l'établissement, car dans une nation toute guerrière qui peut mieux juger des justes occasions de montrer son courage et de celles où l'honneur offense ses demandes de satisfaction, que d'anciens militaires chargés de titres turcs d'honneur qui ont blanchi sous les lauriers et prouvé 100 fois au prix de leur sang qui n'ignorent pas quand le devoir veut qu'on en répande. Il suit en troisième lieu que rien n'étant plus indépendant du pouvoir suprême que le jugement du public, le souverain devait se garder, sur toute chose, de mêler ses décisions arbitraires parmi des arrêts faits pour représenter le jugement, et qui plus est, pour le déterminer. Il devait s'efforcer, au contraire, de mettre la cour d'honneur au-dessus de lui, comme soumis lui-même à ses décrets respectables. Il ne fallait donc pas commencer par condamner à mort tous les duellistes indistinctement. Ce qui était mettre d'emblée une opposition choquante entre l'honneur et la loi, car la loi même ne peut obliger personne à se déshonorer. Si tout le peuple a jugé qu'un homme est poltron, le roi, malgré toute sa puissance, aura beau le déclarer brave, personne n'en croira rien. Et cet homme, passant alors pour un poltron, qui veut être honoré par force, n'en sera que plus méprisé. Quant à ce que disent les édits, que cette offense est Dieu de se battre, c'est un avis fort pieux, sans doute, mais la loi civile n'est point juge des péchés. Et toutes les fois que l'autorité souveraine voudra s'interposer dans les conflits de l'honneur et de la religion, elle sera compromise des deux côtés. Les mêmes édits ne raisonnent pas mieux quand ils disent qu'au lieu de se battre, il faut s'adresser aux maréchaux. Condamner ainsi le combat sans distinction, sans réserve, c'est commencer par juger soi-même ce qu'on renvoie à leur jugement. On fait, bien qu'il ne leur ait pas permis d'accorder le duel, même quand l'honneur outragé n'a plus d'autres ressources. Et selon les préjugés du monde, Il y a beaucoup de semblables car, quant aux satisfactions cérémonieuses dont on a voulu payer l'offense, ce sont de véritables jeux d'enfant. Qu'un homme ait le droit d'accepter une réparation pour lui-même et de pardonner à son ennemi en ménageant cette maxime avec art, on la peut substituer insensiblement aux féroces préjugés qu'elle attaque. Mais il n'en est pas de même quand l'honneur des gens auxquels le nôtre est lié se trouve attaqué. Dès lors, il n'y a plus d'accommodement possible. Si mon père a reçu un soufflet, si ma sœur, ma femme ou ma maîtresse s'est insultée, conserverai-je mon honneur en faisant bon marché du leur? Il n'y a ni maréchaux ni satisfaction qui suffisent. Il faut que je les venge ou que je me déshonore. Les édits ne me laissent que le choix du supplice ou de l'infamie. Pour citer un exemple qui se rapporte à mon sujet, n'est-ce pas un concert, bien entendu, entre l'esprit de la scène et celui des lois, qu'on aille applaudir au théâtre ce même Cid, qu'on irait voir pendre la grève? Ainsi, l'on a beau faire, ni la raison, ni la vertu, ni les lois ne vaincront l'opinion publique tant qu'on ne trouvera pas l'art de la changer. Encore une fois, cet art ne tient point à la violence. Les moyens établis ne serviraient, s'ils étaient pratiqués, qu'à punir les braves gens et sauver les lâches. Mais heureusement, ils sont trop absurdes pour pouvoir être employés et n'ont servi qu'à faire changer de nom au duel. Et comment fallait-il donc s'y prendre? Il fallait, ce me semble, soumettre absolument les combats particuliers à la juridiction des maréchaux, soit pour les juger, soit pour les prévenir, soit même pour les permettre. Non seulement il fallait leur laisser le droit d'accorder le champ quand ils le jugeraient à propos, mais il était important qu'ils usassent quelquefois de ce droit, ne fût-ce que pour ôter au public une idée assez difficile à détruire, et qui seul annule toute leur autorité, savoir que dans les affaires qui passent par devant eux, ils jugent moins sur leurs propres sentiments que sur la volonté du prince. Alors il n'y avait point de honte à leur demander le combat dans une occasion nécessaire. Il n'y en avait même pas à s'en abstenir quand les raisons de l'accorder n'étaient pas jugées suffisantes. Mais il y en aura toujours à leur dire « Je suis offensé ». Faites en sorte que je sois dispensé de me battre. Par ce moyen, tous les appels secrets seraient infailliblement tombés dans le décrit, quand l'honneur offensé, pouvant le défendre et le courage le montrer au champ d'honneur, on eût très justement suspecté ceux qui le cachent pour le battre, et quand ceux que la cour d'honneur eût jugé d'être mal battus seraient en qualité de vils assassins restés soumis aux tribunaux criminels. Je conviens que plusieurs duels n'étant jugés qu'après coup et d'autres même étant solennellement autorisés, il en aurait coûté la vie à quelques braves gens, mais c'eût été pour la sauver dans la suite, à des infinités d'autres, au lieu que du sang qui le verse malgré les édits n'ait une raison d'en verser davantage. Que serait-il arrivé dans la suite ? À mesure que la cour d'honneur aurait acquis de l'autorité sur l'opinion du peuple, par la sagesse et le poids de ses décisions, elle serait devenue peu à peu plus sévère jusqu'à ce que les occasions légitimes se réduisent tout à fait à rien, le poids d'honneur eût changé de principe et que les duels fussent entièrement abolis. Un n'a pas eu tous ses embarras, la vérité, mais aussi on a fait un établissement inutile. Si les duels aujourd'hui sont plus rares, ce n'est pas qu'ils soient méprisés ni punis. C'est parce que les mœurs ont changé. Et preuve que ce changement vient de causes toutes différées auxquelles le gouvernement n'a point de part, la preuve que l'opinion publique n'a nullement changé sur ce point, c'est qu'après tant de soins malentendus, tout gentilhomme qui ne tire pas raison d'un affront l'épée à la main n'est moins déshonoré qu'auparavant. Une quatrième conséquence de l'objet du même établissement est que nul homme ne pouvant vivre civilement sans honneur tous les états où l'on porte une épée, depuis le prince jusqu'au soldat, et tous les états même où l'on n'en porte point, doivent ressortir à cette cour d'honneur, les uns pour rendre compte de leur conduite et de leurs actions, les autres de leurs discours et de leurs maximes, tous également sujets à être honorés ou flétris, selon la conformité ou l'opposition de leur vie ou de leurs sentiments au principe de l'honneur établi dans la nation, et réforme insensiblement par le tribunal sur ceux de la justice et de la raison. Borner cette conséquence aux nobles et aux militaires, c'est couper les rejetons et laisser la racine. Car si le point d'honneur fait agir la noblesse, il fait parler le peuple. Les uns ne se battent que parce que les autres les jugent, et pour changer les actions dont l'estime publique est l'objet, il faut auparavant changer les jugements qu'on emporte. Je suis convaincu qu'on ne viendra jamais à bout d'opérer ces changements sans y faire intervenir les femmes mêmes de qui dépend en grande partie la manière de penser les hommes. De ce principe, il suit encore que le tribunal doit être plus ou moins redouté dans les diverses conditions à proportion qu'elles ont plus ou moins d'honneur à perdre, selon les idées vulgaires qu'il faut toujours prendre ici pour règle. Si l'établissement est bien fait, les grands et les princes doivent trembler au seul nom de la cour d'honneur. Il aurait fallu qu'en instituant on eût porté tous les démêlés personnels existant alors entre les premiers du royaume, que le tribunal les eût jugés définitivement autant qu'ils pouvaient l'être par les seules lois de l'honneur, que ces jugements eussent été sévères, qu'il eût eu des cessions de pas et de rang personnelles et indépendantes du droit des places, des interdictions du port des armes ou de paraître devant la face du prince ou d'autres punitions semblables, nulles par elles-mêmes, graves par l'opinion, jusqu'à l'infamie inclusivement qu'on aurait pu regarder comme la peine capitale décernée par la cour d'honneur. Que toutes ces peines eussent eu par le concours de l'autorité suprême les mêmes effets qu'a naturellement le jugement public quand la force n'annule point ses décisions, que le tribunal n'eût point statué sur des bagatelles, mais qu'il n'eût jamais rien fait à demi, que le roi même y eût été cité quand il jeta sa canne par la fenêtre de peur, dit-il, de frapper un gentilhomme, qu'il eût comparu en accusé avec sa partie, qu'il eût jugé solennellement, condamné à faire réparation au gentilhomme pour l'affront indirect qu'il lui avait fait, et que le tribunal lui eût en même temps décerné un prix d'honneur pour la modération du monarque dans la colère. Ce prix, qui devait être un signe très simple, mais visible, porté par le roi durant toute sa vie, lui eût été, ce me semble, un ornement plus honorable que ceux de la royauté, et je ne doute pas qu'il ne fût devenu le sujet des chants de plus d'un poète. Il est certain que, quant à l'honneur, les rois eux-mêmes sont fournis plus que personne au jugement du public, et peuvent, par conséquent, sans s'abaisser, comparaître au tribunal qui le représente. Louis XIV était digne de faire de ces choses-là, et je crois qu'il les eût faites si quelqu'un les lui eût suggérées. Avec toutes ces précautions et d'autres semblables, il est fort douteux qu'on eût réussi, parce qu'une pareille institution est entièrement contraire à l'esprit de la monarchie. Mais il est très sûr que pour les avoir négligés, pour avoir voulu mêler la force et les lois dans des matières de préjugés et changer le point d'honneur par la violence, on a compromis l'autorité royale et rendu méprisables des lois qui sont leur pouvoir. Mais cependant, en quoi consistait ce préjugé qu'il s'agissait de détruire? Dans l'opinion la plus extravagante et la plus barbare qui jamais entra dans l'esprit humain, savoir que tous les devoirs de la société sont suppléés par la bravoure, qu'un homme n'est plus fourbe, fripon, calomniateur, qu'il est civil, humain, poli quand il fait se battre, que le mensonge se change en vérité, que le vol devient légitime, la perfidie honnête, l'infidélité louable, sitôt qu'on se tient tout cela le fer à la main, qu'un affront est toujours bien réparé par un coup d'épée, et qu'on n'a jamais tort avec un homme pourvu qu'on le tue. Il y a, je vous l'avoue, une autre sorte d'affaire où la gentillesse se mêle à la cruauté et où l'on ne tue les gens que par hasard. C'est celle où l'on se bat au premier sang. Au premier sang, grand Dieu. Et qu'en veux-tu faire de ce sang, bête féroce? Le veux-tu boire? Le moyen de songer à ces horreurs sans émotion. Tels sont les préjugés que les rois de France, armés de toute la force publique, ont vainement attaqué. L'opinion, reine du monde, n'est point soumise au pouvoir des rois. Ils sont eux-mêmes ses premiers esclaves. Je finis cette longue digression, qui malheureusement ne sera pas la dernière, et de cet exemple, trop brillant peut-être, si paro alicet componere magnis, je reviens à des applications plus simples. Un des infaillibles effets d'un théâtre établi dans une aussi petite ville que la nôtre sera de changer nos maximes, ou si l'on veut, nos préjugés et nos opinions publiques, ce qui changera nécessairement nos mœurs, comme d'autres entre d'autres, meilleurs ou pires, je n'en dis rien encore, mais sûrement moins convenables à notre constitution. Je demande, monsieur, par quelles lois efficaces vous remédierez à cela? Si le gouvernement peut beaucoup sur les mœurs, c'est seulement par son institution primitive. Mais quand une fois il les a déterminées, non seulement il n'a plus le pouvoir de les changer, à moins qu'il ne les change, il a même bien de la peine à les maintenir contre les accidents inévitables qui les attaquent et contre la pente naturelle qui les altère. Les opinions publiques, quoique si difficiles à gouverner, sont pourtant par elles-mêmes très mobiles et changeantes. Le hasard, mille causes fortuites, mille circonstances imprévues, sont ce que la force et la raison ne sauraient faire. Ou plutôt, c'est précisément parce que le hasard les dirige que la force n'y peut rien. Comme les dés qui partent de la main, quelque impulsion qu'on leur donne n'en amène pas plus aisément le point désiré. Tout ce que la sagesse humaine peut faire est de prévenir les changements, d'arrêter de loin tout ce qui les amène. Mais sitôt qu'on les souffre et qu'on les autorise, on est rarement maître de leurs effets et l'on ne peut jamais se répandre de l'être. Comment donc préviendrons-nous ceux dont nous aurons volontairement introduit la cause ? À l'imitation de l'établissement dont je viens de parler, nous proposerez-vous d'instituer des censeurs? Nous en avons déjà. Et si toute la force de ce tribunal suffit à peine pour nous maintenir tels que nous sommes, quand nous aurons ajouté une nouvelle inclination à la petite des rumeurs, que sera-t-il pour arrêter ce progrès? Il est certain qu'il n'y pourra plus suffire. La première marque de son impuissance à prévenir les abus de la comédie sera de la laisser établir. Car il est aisé de prévoir que ces deux établissements ne sauraient subsister longtemps ensemble et que la comédie tournera les censeurs en ridicule ou que les censeurs feront chasser les comédiens.